Bonsoir et bon début de semaine à tous. Sommet annuel de l'Union africaine, la RDC et le Soudan étaient au cœur des discussions ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie où s'est tenu le 38e sommet de cette organisation panafricaine. À l'issue du sommet dimanche concernant la crise en RDC, les chefs d'État ont approuvé le principe de fusion des deux processus de Luanda et de Nairobi pour éviter les interférences entre différents canaux de médiation. Cependant, aucune précision n'a été donnée sur la mise en œuvre de cette fusion. Pendant ce temps, plusieurs questions se posent, notamment celle du devenir des actuels médiateurs, le Kenyan Uhuru Kenyatta et l'Angolais João Lourenço, qui assurent désormais la présidence tournante de l'Union africaine. Ce dernier estime que pour que la paix revienne en RDC, il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Quelle suite pour la médiation dans les conflits RDC-Rwanda? C'est le thème de ce lundi 17 février 2025. Participez au débat Joseph Coy, député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il est rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Coy, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à toutes les collaborateurs, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Sartre.
Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur voilà, du baromètre sécuritaire du Kivu Security Tracker, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
Et Jean-Baptiste Amundo Kasekwa qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SID en sigle, parti membre de la coalition Lamuka et notable du Nord Kivu. À travers toute la République, vous êtes des milliers à nous suivre sur la fréquence FM. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radio-kepi.net, via le canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte fixe de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba a été l'occasion pour les chefs d'État africains de se pencher sur la crise en République démocratique du Congo. Ils ont notamment approuvé le principe de fusion des deux processus des peu en cours, celui de Luanda et celui de Nairobi. Cependant, plusieurs questions, comme je l'ai dit dans le sommaire, restent en suspens. Tout d'abord, on ne sait pas encore comment cette fusion sera mise en œuvre. Ensuite, on ignore quel sera leur rôle des médiateurs actuels Uhuru Kenyatta et João Lourenço dans le nouveau processus des paix. Par ailleurs, l'Union africaine a réaffirmé son soutien au dialogue comme seule voie pour la paix en RDC. Guy Maté.
Le rendez-vous annuel de l'Union africaine qui a rassemblé ce week-end les chefs d'État et de gouvernement des 55 pays de l'organisation panafricaine pour une durée de 2 jours dans la capitale éthiopienne s'est clôturé alors que les combats se poursuivent en RDC. À ce sujet, les chefs d'État ont approuvé sous le principe la fusion des deux processus de Luanda et de Nairobi pour éviter les interférences entre différents canaux de médiation. Lors d'une conférence de presse dans la foulée de son discours, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a rappelé l'importance des conclusions du sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC organisé le 8 février en Tanzanie. À cette occasion, les membres des deux groupes régionaux ont appelé à un cessez-le-feu immédiat en RDC et à la relance des efforts régionaux fondés sur le processus de Luanda, principal cadre de négociations entre Kinshasa et Kigali, et le processus de Nairobi, centré sur la résolution du conflit à l'intérieur de la RDC. Par ailleurs, dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le président de l'Angola a affirmé que pour que la paix revienne en RDC, il n'y a pas d'autre solution que le dialogue.
Merci Guy Mathieu pour ce reportage. Joseph Coy, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai dit, il s'est tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie le 38e sommet de l'organisation panafricaine, l'Union africaine je veux dire, et la RDC et le Soudan étaient au cœur des discussions lors de de ce sommet. D'abord, quel regard vous portez sur ce 38e sommet de l'Union africaine?
Oui, merci beaucoup, Madame Thierry. Je veux dire que l'Union africaine, qui a reçu la mission de par son acte constitutif, d'instaurer la paix en Afrique, et c'est envers de son organe de paix et sécurité, a, à mon humble avis, une fois de plus, échoué ou a fait preuve de son incapacité à s'affirmer comme organe ou comme structure indépendante capable de résoudre les problèmes africains. Évidemment, après un exposé détaillé de Madame la Première ministre sur l'agression dont fait l'objet la RDC par son voisin, le Rwanda, tous deux membres de l'Union africaine, malheureusement l'Union africaine a été impuissante de prendre des mesures concrètes et contraignantes à l'encontre de son agresseur qui est le Rwanda. Au-delà de la simple reconnaissance de l'invasion des troupes rwandaises sur le territoire congolais, j'estime que l'Union africaine devait fermement condamner le Rwanda et ordonner le retrait de ses troupes sur le territoire congolais, qui en fait réalise des actes d'atrocité depuis leur invasion sur le territoire congolais, malheureusement avec la complicité de certains Congolais égarés.
Alors, vous auriez souhaité, Joseph Soy, vous auriez souhaité que l'Union africaine puisse sanctionner le Rwanda lors de ce sommet?
Madame, ce n'est pas que mon souhait, mais c'est le devoir qui lui revient de par l'acte constitutif, ou de par son acte constitutif. Il est de principe que lorsque deux États sont en conflit, deux États membres de l'Union africaine sont en conflit, l'Union doit prendre toutes ses responsabilités. À ce jour, madame, l'agression rwandaise n'est plus à démontrer. L'agression rwandaise contre la RDC n'est plus à démontrer. Parce que vous avez suivi même au niveau de notre plus grande organisation de l'ONU et d'autres structures telles que l'Union européenne, on condamne fermement l'attitude, les attitudes belliqueuses du Rwanda contre son voisin. Mais pourquoi l'Union africaine, qui est notre organisation, qui agit sur base du principe de solidarité, qui fait que l'Union africaine puisse traiter les problèmes africains avant que ceci ne soit porté au Conseil de sécurité au Conseil de sécurité de l'Union, j'allais dire de l'ONU ou de l'Assemblée générale de l'ONU, que l'Union africaine puisse trouver des solutions aux problèmes africains. Mais on se réalise de plus en plus que l'Union africaine est incapable de résoudre quoi que ce soit. Je ne sais pas, c'est vous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'Union africaine sur tous les différents qui opposent les États africains?
L'Union africaine estime que la solution à la crise en RDC reste le dialogue. C'est une proposition de solution.
Le dialogue, madame, ce n'est pas aujourd'hui que l'Union africaine a proposé. Il y a un conflit qui est né entre la RDC et le Rwanda. Comme je le dis, il est à ce jour incontestable que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Ce différend a été d'abord au premier degré porté au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui a pris une résolution, qui a signé un communiqué pour chercher à résoudre véritablement les problèmes. Il y a cette initiative du processus de Nairobi. C'est une forme de dialogue. parce que, suivant le processus de Nairobi, le chef d'État sur les territoires desquels opèrent les groupes armés devait entrer en contact avec ce dernier pour trouver une issue. On considère que c'est un problème interne. Et le processus de Luanda consistait à résoudre le problème entre la RDC et le Rwanda, deux États en conflit. Et à ce jour, nous ne pouvons pas, il est inconcevable que l'Union africaine puisse ordonner la fusion de ces deux processus. Car, comme je le dis, ils sont distincts, ils sont opposés. Parce que, pour le premier cas, pour le premier processus, il s'agit des groupes armés locaux. Et pour le deuxième processus, il s'agit des conflits entre deux États. Et aujourd'hui, nous avons noté que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Le processus de Luanda avait reçu cette charge-là pour résoudre ces problèmes entre la RDC et le Rwanda. Si on questionne, c'est-à-dire on décide, comme l'Union africaine l'a approuvé, la fusion de ces deux processus, c'est en fait à la fois accentuer la crise sécuritaire. Parce que si on veut que les problèmes internes à la RDC soient résolus avec, comme le Rwanda, partie prenante, là, on se dit que le Rwanda est déjà une partie dans le cadre des affaires internes de la RDC. Qu'est-ce que vient faire le Rwanda dans le cadre des affaires qui concernent la RDC?
Mais aucune précision n'a encore été donnée hein, sur la mise en œuvre de cette fusion, Joseph Kony. Le principe accepté, oui, mais la mise en œuvre, je crois qu'il y aura encore des discussions entre les États sur comment mettre en œuvre.
Déjà, il y a un problème. Lorsque le départ est fauché, vous ne pouvez pas vous attendre à une issue heureuse. Lorsque vous ordonnez la fusion, alors que celui-ci ne doit pas avoir lieu de... C'est-à-dire, vous avez questionné la suite. Si vous voulez véritablement résoudre le problème, chercher à avoir une issue rapide et heureuse de la crise, il fallait, l'Union africaine devait être courageuse pour encourager la poursuite de discussions de Nairobi et de Luanda, parce qu'elles sont les deux issues, les deux voies qui favorise une issue rapide et heureuse de la crise.
On vous garde encore dans cette émission, Joseph Nkoyi. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Idi Modeste qui nous suit depuis Nairobi au Kenya. Mamenga Dadi pense que les dirigeants africains sont manipulés par les forces occidentales tant que ces forces mondiales n'ont pas encore trouvé la solution à ce problème. En Afrique, il n'y aura aucune solution pour la guerre en RDC. Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, vous venez de faire votre entrée dans ce studio de Radio Okapi. Vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, SID, en sigle, c'est un parti de la coalition Lamouka. Vous êtes dans l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Nairobi, plutôt à Addis Abeba, en Éthiopie?
Retombée du sommet d'Addis Abeba, je conclus que manifestement et contre tout ce que je souhaitais, ce sont les armes qui vont malheureusement continuer à parler. Parce que d'Addis Abeba, on adopte le principe de la fusion du processus de Nairobi et de Luanda, mais on doit encore étudier la mise en œuvre de ce processus-là, combien de temps ça va prendre. D'Addis Abeba, on entérine ce qui avait été décidé à Dar es Salaam. Au Dar es Salaam, il avait été dit que les chefs d'état-major vont se réunir pour définir les directives de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Entre-temps, depuis le 8 février, le jour de la tenue du sommet de Dar es Salaam, jusqu'à ce jour, le cessez-le-feu est complètement bafoué. Les M23 et son allié, le Rwanda, étendent les occupations territoriales. Le chef d'état-major dit le communiqué conjoint de Dar es Salaam, après qu'ils auraient défini les directives, devraient soumettre leurs directives à la réunion des ministres prévue dans un délai de 30 jours. Pendant ce temps-là, ce sont les armes qui parlent. Et entre-temps, va se poser la question de la médiation. Il est dit, non seulement on fusionne le deux processus, mais il faut qu'on réqualifie la médiation. Et Lorenzo, qui paraît non partant, le temps peut-être de trouver qui le remplace, que celui qui le remplace prenne la maîtrise des dossiers, qu'il contracte ou obtienne l'accord de toutes les parties, alors que la guerre a pris une vitesse très très vertigineuse. Voyez, c'est en 2 semaines que Calais, Kabare, Bukavu viennent d'échapper au contrôle du gouvernement. Qu'est-ce qui nous attend dans les 2 semaines qui suivent? Quel devient Uvira? Quel devient Kalemi? Quel devient Kindu? Quel devient Butembo-Beni? Les menaces que l'Ouganda fait peser sur l'Ituri aujourd'hui, sur Kisangani. Bref, je suis au regret de constater que le processus de médiation semble accuser un sérieux retard et que malheureusement, lorsque la diplomatie échoue, ce sont les armes qui prennent le dessus au grand péril de nos populations.
Alors, vous vous attendez à quoi, à quelle issue, après ce sommet?
Alors, je ne m'attendais pas à très grand-chose, surtout que Félix lui-même n'ait pas été physiquement présent à Dar es Salaam, encore moins à Addis Abeba.
Il a été représenté par la Première ministre.
Représenté, ça signifie que l'État congolais, qui est le principal concerné par la crise, n'était pas représenté au plus haut sommet. Et ça, en diplomatie, ça du tout. Les autres tirent les conclusions. Et que Lorenzo, aujourd'hui, jette l'éponge, ça peut-être signifier que l'État que Félix comprendra qu'il a besoin de la médiation, pendant ce temps-là, c'est, disais-je, la population qui serait en train de souffrir. Et donc, de Luanda, étant donné déjà que d'Addis Abeba, étant donné que déjà Dar es Salaam avait été un rendez-vous manqué pour nous, eh bien, je ne m'attendais pas à un miracle. D'où, pour moi, il faut réfléchir comment nous donnons de la valeur à l'initiative des évêques et pasteurs, parce qu'en définitive, il n'y a que nous, les Congolais, qui souffrons de cette guerre.
Ah, mais certains Congolais sont quand même déçus, hein, parce qu'ils attendaient à ce que le Rwanda soit sanctionné par l'Union africaine, même si le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a dit que les sanctions ne sont pas toujours une solution, mais les Congolais s'attendaient quand même que l'Union africaine frappe.
Madame, le Rwanda de 2012 n'est pas le Rwanda de 2025 et nous devrions comprendre cela. Le Rwanda de 2025 dispose d'un levier important qui amène les autres États à réfléchir par deux fois avant de penser à terme des sanctions. C'est le levier de sa capacité militaire. Par sa capacité militaire, le Rwanda assure la sécurité des entreprises françaises au Mozambique. Par sa capacité militaire, le Rwanda est présent dans les missions de maintien de la paix dans plusieurs pays, en République centrafricaine, les relations Rwanda-Angola, Congo-Brazza, n'en parlons pas. Et donc, il était illusoire de penser qu'au stade actuel, nous puissions l'emporter sur ce terrain-là. Mais nous devrions étudier plutôt quels sont les leviers que nous pouvions mobiliser pour équilibrer le rapport de force. Et ces leviers-là, l'UDP s'apporte la responsabilité. L'un des leviers dont nous disposions, c'était le levier de la mobilisation pacifique de nos populations. Et par ces violences contre les ambassades et autres, le pouvoir UDP est passé au créneau pour dire au peuple, ne manifestez plus. Et le terrain reste libre aux mains de ceux-là qui nous font la guerre. Et donc, des sanctions aujourd'hui, que Sassou Nguesso fasse sa déclaration,
il ne fallait pas être naïf pour penser que Sassou Nguesso pouvait dire le contraire.
Ernest Okund, qui nous suit sur la page Facebook de Radio Okapi, dit ceci: le président de la République du Congo-Brazzaville a répondu clairement à la question sur les sanctions, y compris le prochain facilitateur. Et Marie Makelele depuis Bukavu, nous vous écoutons avec toute notre, avec toute énergie. À mon humble avis, la RDC est dans une distraction totale. Tantôt, c'est la France qui nous distrait, tantôt, ce sont nos autorités congolaises. Où irons-nous avec tous ces mensonges tous les jours? Ernest revient pour dire que la solution politique pour l'ensemble des Congolais étant le dialogue à l'africaine. Alors, Monsieur Mayala, Frédéric, plutôt Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, qu'est-ce que vous pensez du 38e sommet de l'Union africaine, des résolutions ou des conclusions de ce sommet?
Merci, Madame Curie. Je pense qu'on ne devrait pas se limiter qu'à seulement à 10. Il faudrait voir déjà qu'est-ce qui précède à 10, si on peut se reprojeter dans une brève historique sur les deux semaines passées, tous les efforts qui ont été consentis, autant du côté congolais que des partenaires et puis amis du Congo, en termes de pouvoir adresser cette question de la pression rwandaise. Et je pense que l'honorable Gassé, qui nous a précédé, a plus ou moins élaboré assez largement sur tous les éléments sur lesquels nous continuons à ne pas être assez efficaces, en tout cas de notre côté. Et je pense que cela va encore prendre du temps, autant que ça fait mal. Mais voilà quelle est la situation. C'est-à-dire, le 27, Goma était en train de tomber, alors que au niveau du Conseil de sécurité à New York, se prenaient des résolutions pour interpeller en tout cas l'agression rwandaise à ne pas progresser ou traverser le Rubicon. Ça a été quand même une étape assez importante pour ceux qui ont suivi ce conflit depuis 2021. Je pense que ça a été l'une des fois où on a vu la rébellion du M23 s'attaquer directement aux forces multilatérales. Et sans pour autant craindre, hein, parce qu'on a vu qu'après, ça a suivi une progression assez rapide et qui a aussi, d'autre part, mis à nu les faiblesses de notre système de défense. Donc, je pense que on a encore perdu du temps en allant à Munich pour déconstruire un narratif autour duquel on pouvait espérer avoir un consensus national, parce qu'il faut comprendre que avant de pouvoir envisager ou espérer avoir des réponses internes, penser que nous pourrions avoir des solutions externes, resterait dans ce cadre où on fait la même chose, on s'attend à avoir des résultats différents. On a essayé pendant longtemps avec les forces de l'Afrique de l'Est, on a la SADC, nous avons la plus grande mission de des Nations Unies depuis que les Nations Unies ont été établies. Et pourtant, jusque-là, nous n'avons pas de solution. Nos compatriotes continuent de mourir. Et nous avons cette responsabilité qui est supposée être assumée par certains de nous qui, malheureusement, semble soit avoir une mauvaise foi ou peut-être par incompétence, mais en tout cas j'ai comme l'impression que nous faisons que du surplace. La situation s'est considérablement dégradée et pour moi je pensais que à la limite l'initiative des princes ecclésiastiques, la CINCO et le CC, se présenter comme étant une médiation de la dernière chance, parce qu'il faut se rendre compte. Peut-être que l'honorable Kasek aussi était c'est pas qui est quelque chose que l'on pourrait avoir de la SADC ou de Nairobi, mais je pense que les deux processus sont morts. Nous avons vu que pendant tout le processus, le côté congolais a beaucoup plus privilégié le côté SADC, qui d'une certaine façon peut aussi se justifier par le fait que l'Angola est un partenaire historique du Congo, mais que de l'autre part, on s'était précipité à rejoindre un bloc régional d'Afrique de l'Est sans pour autant avoir mûri assez ou maturément notre réflexion sur les intérêts que le Congo avait à tirer de ce bloc, et on s'est retrouvé pris au piège. Donc, on s'est retrouvé avec deux processus diplomatiques parallèles qui aussi disposaient des forces de défense ou des moyens militaires considérables, et le tout a été mis en action, mais côté résultat, nous ne les avons pas eus. Donc, je pense qu'il faut être conscient qu'à ce stade, il serait assez utopique de penser que on pourrait espérer Luanda être relancé ou Nairobi.
On a vu et donc la crise pourrait perdurer.
Tout à fait. Je pense qu'il faut être conscient que cette situation est partie pour durer et que d'autre part, nous avons peut-être une opportunité ici où nous pouvons commencer à l'interne avec une opportunité qui nous est offerte par les évêques pour au moins essayer de jeter les ponts et vider certaines questions d'ordre congolais avant d'envisager ramener sur la table les acteurs externes à ces conflits qui ne sont pas aussi les moindres. Et donc, moi je pense qu'on ne devrait pas s'offusquer avec les résolutions de la semaine passée, mais plutôt nous rendre à l'évidence sur quelles ont été nos faiblesses sur le passé, où résident nos forces, quoi qu'elles minimes. Malheureusement, la réalité sur le terrain avec cette rébellion qui de plus en plus prend de l'ampleur complique encore davantage l'équation. Mais à ce stade, je pense qu'il faut mettre à l'écart les égos, se rendre compte de l'évidence et de la réalité, ainsi que du pragmatisme que cela demande à pouvoir résoudre cette question.
Merci.
Et prendre au bon la chance qui nous est en tout cas offerte pour le moment, parce que je n'en vois pas une autre.
Merci Henri Pacifique Baella, vous êtes très nombreux à nous suivre depuis la ville Lumumba dans la province du Sankuru. Merci à bel ami Olenga. On va ouvrir notre standard pour écouter ces auditrices et auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler afin de donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Direction Goma pour écouter cet auditeur.
Salut Radio Capi. Vu la situation actuelle où la RDC semble être perdue sur tous les plans, en prenant l'exemple du plan militaire, je pense que la RDC n'a plus d'autre choix que d'accepter le dialogue. Sinon, avec cet allure où le M23 et ses alliés prennent de grandes villes Goma comme Bukavu, et que les FRDC n'arrivent pas à les déloger après l'occupation, moi je pense qu'à un certain moment, le M23 risque à son tour de refuser tout dialogue avec le gouvernement de Kinshasa, mais plutôt d'exiger la démission du président de la République et son équipe, ce qui va coûter cher à la République. Pierre Moussavir depuis la ville de Goma, honore qui vous remercie.
Joseph Nkoy, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur qui nous a appelé depuis Goma, honore qui vous.
Oui, merci beaucoup madame, je vais, avant de revenir, accepter que je puisse dire des mots sur l'initiative de la CENCO de l'initiative. Je pense, comme tout citoyen, l'initiative de dialogue au niveau interne n'est pas mauvaise car elle consiste à renforcer la cohésion nationale. Seulement qu'il y a quelque chose qui tape aux yeux, c'est que si on considère que l'initiative de la CENCO a pour essayer de construire une dynamique au niveau interne, assurer la cohésion nationale, je me pose la question, qu'est-ce que la CENCO est à faire à Kigali? Qu'est-ce vient faire Kagame dans les affaires intérieures de la RDC? Et donc, il y a déjà cet élément-là qui me fait croire qu'il y a une sorte de confusion et que nos pères, j'allais dire les pères de la CNP et de l'ECC, doivent faire attention pour que l'on ne puisse pas inviter une partie tierce à des questions qui concernent la République démocratique du Congo au niveau interne.
Le Rwanda est accusé d'appuyer le M23. Est-ce qu'il ne fait pas partie du problème?
Si le Rwanda est appuyé, je ne dirais pas si. Comme le Rwanda adresse la République démocratique du Congo, la voie qui a été proposée par des mécanismes au niveau régional sont telles que nous devons revenir sur la voie du Rwanda, les processus de Rwanda. Mais réfléchir autrement, c'est vraiment semer de la confusion et nous ne saurons pas quel est le problème véritable que l'on veut résoudre.
Alors, vous avez suivi l'honorable, plutôt M. Oui. Kasekwa et même Pacifique Mayala. L'auditeur est revenu sur ça. Est-ce que attendre le processus de Luanda ou la fusion des deux processus, Luanda et Nairobi, ne risque pas de prendre beaucoup de temps? Il faut trouver les nouveaux médiateurs. Est-ce que ça risque pas de faire freiner les choses entre-temps ou pendant ces temps? La rébellion est en train de continuer ça, à conquérir des localités, des villes.
Oui, madame. Il y a lieu de pouvoir noter ceci, que le Rwanda en lui seul n'est pas plus fort que la République démocratique du Congo, même si la RDC se décide de déposer toutes les armes. Retenez ceci, que le Rwanda bénéficie du soutien logistique, financier et tout ce qui va avec de la part de ceux qui sous-traitent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, parce que, en fait, la stabilité économique, la stabilité financière du Rwanda et bien d'autres puissances à travers le monde dépendent ou sont prédicteurs de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. En fait, Madame Jemi, c'est l'histoire qui se répète. Lorsque Mouzé est entré, excusez-moi pour une petite histoire, quelques faits historiques seulement, lorsque Mouzé a bénéficié du soutien du Rwanda, de l'Ouganda et de la pour faire partir Mobutu, ces derniers n'avaient pas pour mission de venir s'emparer des zones en risque à minérer sur le territoire congolais. Vous verrez qu'avec l'Angola, la République démocratique du Togo n'a eu aucun problème parce que l'Angola a été payée et l'Angola est partie seulement avec l'Ouganda et le Rwanda dans le cadre où, en tenant compte de leur velléité expansionniste, cherchent à s'emparer des localités, des zones riches à minerais pour faire vivre leurs économies. Quand ils sont venus avec Mouzé, Mouzé leur a dit de rentrer. Ils ont refusé, et c'est ce qui a même causé la mort à Mouzé. En fait, c'est l'histoire qui se répète. C'est peut-être le moment pour moi d'appeler à la conscience de tous les Congolais, toutes les couches confondues, que nous devons construire une dynamique au niveau interne, car le Rwanda n'est pas plus fort que nous.
Vous avez alors, lorsque vous parlez de dynamique au niveau s'il vous plaît, monsieur Coy.
Excusez-moi, vous avez suivi que de plus en plus, il y a un frémissement de la communauté internationale qui décrit les comportements belliqueux du Rwanda. Soyons ensemble, ne nous laissons pas manipuler par les étrangers qui veulent encore une fois nous coloniser pour que nous puissions rester dans cette sorte de spirale, dans cette sorte de colonisation indéterminé.
Lorsque vous parlez de dynamique au niveau interne, c'est-à-dire que vous rejoignez un peu la démarche des évêques, vous parlez de il faut qu'il y ait un dialogue au niveau interne pour ensemble affronter...
Et même le président de la République l'a toujours dit. Le président de la République n'est pas contre la réconciliation, n'est pas contre la création d'une dynamique, n'est pas contre les dialogues nationaux, parce que comme garant des bons fonctionnements des institutions, comme garant de la nation, le président de la République a la charge de mettre ensemble tous les compatriotes. Il n'a jamais été contre. Et si c'est ça la démarche de l'évêque, des évêques, cette démarche est appréciée. Parce qu'à ce jour, si l'opposition a un certain nombre de réclamations, et bien il y a des instruments juridiques au niveau interne qui leur permettent de pouvoir exercer librement leur droit, de pouvoir s'exprimer librement. Mais s'ils pensent qu'il y a d'autres réclamations, eh bien, qu'ils viennent, le président de la République ne refuse personne, le président de la République a le droit tendu pour recevoir tout citoyen qui a quoi, qui a proposé quoi que ce soit pour la bonne marche de notre pays, pour l'avenir de notre peuple.
Merci Joseph Nkoy, on va aller cette fois-ci. On revient plutôt à Kinshasa hein, pour écouter cet autre auditeur.
C'est Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. L'Union africaine est une coquille vide. Cette organisation ne répond pas à plusieurs défis que l'Afrique est en train de passer ces derniers temps. Ce sommet, à mon avis, est une simple distraction qui ne va pas donner la solution au conflit entre la RDC et le Rwanda, dans la mesure où, depuis que la RDC avait déclaré la violation de son territoire par l'armée rwandaise, on n'avait pas entendu un mot venant de l'Union africaine pour condamner les pays agresseurs. Le gouvernement congolais ne devrait pas entrer dans les distractions de ces différents sommets, car l'ennemi avance et récupère les villes sans toutefois respecter les cessez-le-feu.
Monsieur Jean-Baptiste Kassé-Kouan, je vais ajouter très rapidement la réaction de Idroma Kabeya. Il pense que l'Union africaine est incapable de résoudre les conflits en Afrique. Par ailleurs, les Congolais vont prendre leur destin en main.
C'est bien dit. Que ce soit à Dar es Salaam comme à Addis Abeba, eh bien, les organisations régionales n'ont pas répondu aux cris de détresse des Congolais. Et il appartient aux Congolais, effectivement, de prendre leur destin à main. Mais ce destin-là, pour le prendre à main, je réponds à Joseph Ngoï. S'il des opposants ont des revendications à faire, qu'ils viennent auprès du chef de l'État. Non, Félix fait partie du problème. Et pour nous, la solution est simple. Félix, c'est notre frère. S'il a le sens du salut du Congo, la solution simple, c'est qu'il permette la reconstruction de la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale n'est pas aujourd'hui possible avec sa personne. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Monsengo lui a donné conseil, feu cardinal. Il disait, mais à partir du moment où ton frère Martin Fayulu a été élu, tu aurais dû l'appeler pour le féliciter. Et la question serait réglée d'office. Mais quel genre d'accord a-t-il signé avec Nanga? Nanga réclame aujourd'hui. Et celui qui était président de l'Union africaine de l'époque, Paul Kagame, ça manque aujourd'hui. Qu'y a-t-il eu? Et puis, par la suite, sa gouvernance. Par la suite, les simulacres d'élection de 2023. Bref, le seul avantage que Félix peut offrir à la nation aujourd'hui, à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. C'est d'accepter de souscrire au schéma des évêques dans un cadre de dialogue entre Congolais le plus souple possible. Il dit, mes chers compatriotes, j'ai donné le meilleur de moi-même au plan diplomatique. Je me raconte que et à Dar es Salaam et à Addis Abeba, ça n'a pas réussi, je n'ai pas gagné. J'ai effectué plus de 100 voyages pensant chercher la solution. Ça n'a pas donné.
Au plan militaire, je donne les mérites moi-même. Eh bien, que quelqu'un d'autre prenne le leadership de la reconstruction de la cohésion nationale. Il aura sauvé la nation. Parce que le danger, c'est lequel? En fait, à l'allure où vont les choses, avec la prise de Bukavu par les agresseurs, le gouvernement provincial qui, sans raison, se retire de Uvira, vous abandonnez. Le Sud Kivu n'a pas que Kabare, n'a pas que Kalehe et la ville de Bukavu. Ce sont les trois entités qui étaient jusque-là contrôlées par l'ennemi. Mais l'État congolais se retire de l'ensemble des territoires du Sud Kivu. Et le gouverneur des provinces lui-même se retire. On abandonne les populations à elles-mêmes. Les mois, l'angoisse se répand dans toutes les contrées. À cette allure-là, nous risquons deux scénarios. Soit, que je ne souhaite pas, un scénario de 97, mais là aussi, il ne faut pas que l'agresseur pense que les Congolais vont baisser les bras. Ce qu'il a vu à Bukavu, ce qu'il a vu à Goma se résigner, c'est parce qu'ils se disent, prenons le temps de nous réorganiser, de nous remobiliser. Mais le moment venu, nous allons revenir à la charge. Le deuxième scénario, c'est aussi pire que le premier, c'est le scénario de 98. C'est-à-dire, le Rwanda consolide son contrôle sur le Kivu pour l'exploiter le plus longtemps possible, comme l'ont dit les experts des Nations Unies, c'est ça l'objectif du Rwanda. Dans ce cas-là, il favorise également l'éclatement d'autres provinces. Avec la menace de l'Ouganda sur l'Ituri, on a fait une républicaine. On exploite les tensions dans les Katanga, on a fait une autre républicaine. Et malheureusement, nous n'aurons pas l'avantage de bénéficier d'une nouvelle mission des Nations Unies pour nous aider à réorganiser San City Bis pour réunifier notre pays. Les États-Unis, avec Trump, ne sont plus prêts à financer des missions à l'international. Bref, c'est en interne que nous devons chercher la solution de la construction de la cohésion nationale. Et c'est là. Passe par
donc
une
vous
solution
pensez que la solution
de Félix qui accepte la médiation des évêques, mais en état disposé, comme dans le dialogue, dans la Bible, dans le bateau avec Jonas, Jonas a eu le courage de dire je suis le coupable, que je me retire et qu'on organise pour que le bateau puisse se calmer.
Donc vous, du côté vous de l'opposition, j'imagine, vous êtes de l'opposition, pour vous, Luanda et Nairobi, il faut oublier, la solution se trouve à l'interne, en une phrase.
La solution se trouve à l'interne.
Merci. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Je suis Jado Igilima, je vous appelle depuis Bukavu, en province du Sud Kivu. La suite est réservée pour la médiation dans le conflit RDC-Rwanda est sombre, car toutes ces organisations internationales sont constituées des États qui, à part le Burundi qui a officiellement affiché qu'il est derrière la RDC, d'autres États ont du mal à se déterminer car ayant des intérêts à sauvegarder du côté du Rwanda et en même temps du côté de la RDC. Ceci me pousse à conclure que la solution à la crise sécuritaire dans notre pays ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais plutôt de l'organisation à l'interne, de manière à assurer une cohésion entre les acteurs sociopolitiques et les autres ne viendront qu'en appui. Nous devons pour ce faire encourager la CENCO et l'ECC qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Merci.
Réaction Henri Pacifique Mayala.
Oui, Madame Kelly, je pense que j'y suis déjà revenu. On a essayé avec les solutions externes. Nous avons vu les limites et c'est vraiment une mauvaise foi de penser continuer sur cette même lancée. Et je voudrais revenir sur ces cas.
Donc la médiation internationale, il faut oublier.
Madame Kelly, il est clair que nous n'aurons rien de Luanda. Nous n'aurons rien de Nairobi. C'est clair. Dar es Salaam a plus ou moins orienté dans le sens à fusionner les deux. Mais les problèmes resteront les mêmes. Et nous avons vu même la situation. De la même façon qu'à New York, on décidait Goma tombait, le lendemain des résolutions de Nairobi, Bukavu était en train de partir. Nous avons franchi ce cap où on devrait espérer une rencontre de l'extérieur. C'est peut-être aussi une interpellation au vu de la nature pédagogique de cette émission. Dire que c'est une chose qui se répète, que notre histoire, oui, la dernière fois que le Congo perdait le contrôle de Goma et de Bukavu, c'est avec les événements liés au musée Laurent-Désiré Kabila. Mais vouloir établir de ressemblance ou je pense que c'est une mauvaise foi ou une lecture assez limitée de notre histoire. Cette histoire du M23, on s'en est débarrassé en 2022, en 2012. 2017, il y a eu les premières agitations autour de la région de Sarambwe et Tchanzu. Ils n'ont jamais dépassé ces stades-là. Ça ne veut pas dire qu'on avait les meilleures relations diplomatiques au sein de la région de l'Afrique de l'Est. Après, nous avons eu le gouvernement en place aujourd'hui qui a pratiquement caporalisé la majorité de nos vaillants militaires qui se sont retrouvés à agir en garçon de cour et des mercenaires qui étaient logés, payés gracieusement dans les meilleurs hôtels de Goma et qui, par contre, ont capitulé les premiers, laissant la ville aux rebelles. Et aujourd'hui, on ne veut pas s'assumer et comprendre que dans la gestion de la défense d'un État, on n'y apporte pas les émotions, moins encore les appartenances ethniques.
Alors, je vous redonne la parole, Henri Pacifique Mayala. Il y a Jackson Kisangani qui nous écrit, qui pense que la fusion des processus de Luanda et Nairobi est une avancée diplomatique qui pourrait permettre une coordination plus efficace des efforts de paix.
Mais vu qu'on n'aura plus Lorenzo là-bas, qui sera par exemple
le médiateur? Il faut trouver d'autres médiateurs, un nouveau médiateur.
Mais écoutez, madame, déjà le problème s'était posé parce que pour la SADC à Luanda, le Rwanda n'était pas assez chaud. Et si le président Kagame a ouvertement manqué de considération au président Lorenzo en s'absentant au rendez-vous du 15 décembre, qui d'autre, quel autre premier des Angolais que nous allons engager sur ce processus-là? Nous savons quelle est la position de notre gouvernement sur le processus de Nairobi. Et aujourd'hui, d'autre part, nous avons une rébellion qui est en train d'avancer de façon inattendue.
Alors, on va conclure. Nous sommes à la fin de notre émission. Joseph Nkoy, député national et cadre de l'Union sacrée de la nation. Les évêques, l'objectif des évêques, c'est parvenir à un dialogue inclusif. Mais de l'autre côté, le chef de l'État est catégorique. Lui, pas de négociations avec le M23. Comment on va s'en sortir?
Oui, madame, j'en viens, mais permettez-moi que
je nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Essayez d'être concis, répondez à la question.
Je veux juste insérer mon tour à mon frère, le vice-président de l'Institut, qui pense que la solution à ces jours serait la démission du président Tshisekedi. Je comprends en fait que mon frère, n'est pas objectif. Il faut que l'on comprenne ceci, que la situation actuelle de notre pays n'est pas liée à l'individu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il est lié à la République démocratique du Congo. Il faut que l'on sache qu'en 2019, Félix Tshisekedi, j'allais dire 2009, Félix Tshisekedi n'était pas là. En 2012, Félix Tshisekedi n'était pas là. Et c'est manquer de connaître l'histoire de notre pays qui, de 2009 à 2012, il n'a pas existé des accords entre les gouvernements congolais et le mouvement M23, qui est en fait le sujet du Rwanda. Si aujourd'hui on dit qu'il existe des accords entre Félix et Nanga, je me crierai en faux. Parce que Nanga a présidé une institution d'appui à la démocratie et régie par les principes de la neutralité et par voie de conséquence, il peut avoir des accords secrets avec un candidat président ou celui qui est déclaré élu.
Alors, on vous a suivi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, répondre à la question et conclure?
Je veux dire ceci, madame, que la situation de notre pays est... Il ne peut être résolu que par les Congolais eux-mêmes, par, je veux dire, un dialogue sincère de tous les fils, toutes les filles de notre pays.
Y compris Corneille Nanga.
C'est le moment où on doit dire.
Y compris Corneille Nanga.
Non. Écoutez, si Corneille Nanga se met dans la posture du rebelle qui a pris les armes contre son pays, il n'a qu'à rejoindre le processus des lois de Nairobi. Il faut que tous les Congolais le sachent que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait la vie quotidienne du Rwanda. Le Rwanda fait tout pour instabiliser notre pays afin de stabiliser son économie.
Merci.
Si nous ne comprenons pas, nous pensons que ce Tshisekedi qui est à la base de tout ceci, nous sommes en train de nous tirer la balle au pied.
Merci, merci Joseph Nkoyi. Jean-Baptiste Omondeka, c'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion, c'est d'appeler tous les Congolais à comprendre l'extrême gravité de la situation. D'abord, au plan humanitaire, ce qui se passe aujourd'hui à Bukavu, à Goma, à Uvira, nous devrions tout faire pour éviter que ça ne se reproduise dans une autre ville. Ensuite, au plan des tueries ciblées, les cas du musicien, l'artiste Idengo. Si nous laissons ces gens progresser jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à Kisangani, Kinshasa, nous ne savons pas quelles sont les personnes qui vont se retrouver sur la liste des personnes ciblées par leur présence. Troisièmement, si nous leur laissons arriver jusqu'à Kinshasa, détruire à nouveau l'armée, remettre les compteurs à zéro sur le plan de la reconstruction de la police, de l'armée, de toute l'administration publique, eh bien, nous en payerons le prix pendant plus de 40 ans. Raison pour laquelle il faut trouver des solutions urgentes, des solutions radicales. Et ces solutions-là passent d'abord par la reconstitution d'un nouveau leadership à la tête du pays.
Merci.
Lorsque un coach a changé de chef d'état-major trois fois, c'est le coach lui-même qu'il faut remettre en question.
Merci.
Un nouveau leadership peut conduire le Congo à la cohésion.
Vous l'avez déjà dit.
Remobiliser toutes les troupes.
Merci Jean-Baptiste.
Et nous pouvons mettre le Rwanda dans un rapport de force qui nous oblige, qui l'oblige à accepter que le Congo ne doit pas
être... On vous a compris. Henri Pacifique Mayala.
Ah, je pense que pour conclure... J'apprécie déjà l'indépendance politique de l'honorable Kasekwa face à cet appel à l'Union nationale. Mais ce qui frustre et ce qui fait encore beaucoup plus peur, c'est que si nous ne parvenons pas déjà à nous remettre en cause à l'interne, dans le sens où il y a eu des faux pas qui ont été pris, il y a eu des décisions peu réfléchies qui ont été implémentées. Aujourd'hui, tout le commandement du M23 était emprisonné, ils étaient en dolo d'ici 2022 ou peu avant. Ils ont été libérés par le gouvernement en place. Nous sommes les enfants d'une même famille, on ne va pas se tuer. Mais continuer à nous entêter dans nos égos personnels, ça ne va pratiquement nous mener nulle part. Et si le M23 a pu avancer en moins d'une semaine à prendre un aéroport national, une ville stratégique et progresser au-delà, je ne vois pas où est-ce que nous sommes en train de partir. Et autant que ça me fait de la peine, je trouve que continuer sur cette même lancée, nous ne serons en train de rien résoudre.
Merci Henri Pacifique Mayala. Merci à Victoire Imbu qui nous suit depuis la commune de Lemba ici à Kinshasa, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine Guy Maté. Voilà, Guy Maté, Clément Chimanga, Jonathan Folani, Hervé Vauca, merci à Billy, Billy Betou qui était à la mise en onde, Freddy Bikumbi, Bertin Kassiama, Martin Saboujan, qui a supervisé ce programme, présentation et coordination, Kéline Pouté. Restez branchés sur Radio Capille.